Quand je suis sortie de la gare, le froid et l'obscurité m'ont assaillie. Aube ténébreuse. Il était 8 heures, mais il faisait encore noir. La neige avait jeté son manteau pâle sur les reliefs de la ville, blancheur immaculée aux étages des immeubles, dont la virginité était préservée de la souillure des hommes par l'altitude. Au niveau du trottoir, par contre, une boue infâme. Une neige noire et souillée clapotait sous les pas des citadins. Je débarquais du sud. Couleur, sourire, lumière, éclat. Tout ce qu'on ne pouvait percevoir ici. Emmitouflé sous les couches superposées, la tête engoncée dans les épaules, chacun pressant le pas vers sa destination. La mienne, c'était l'hôpital, service des soins intensifs. Dans le bus qui m'y conduisait, j'ai pris le temps d'atterrir, de regarder autour de moi, retrouver dans la violence d'un flash l'ambiance crue et impersonnelle de mon enfance, celle que j'avais fui quelques années auparavant. Par-delà le ronflement du moteur, la voix de Nino ricanait déjà dans le lointain de mes souvenirs, tel un écho spectral m'annonçant la bienvenue.
Et alors quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir?
J'aimerais savoir qui était ma mère.
Il te l'a pas dit, ton papa?
La suite se fondait dans un éclat de rire sinistre et ricanant, au-delà duquel quelques bribes de phrases fusaient encore, me faisant sursauter sur mon siège. Dans mon sac, sagement posé sur mes genoux, j'ai senti la présence réconfortante du marteau. Instinctivement, j'ai entrouvert la fermeture éclair du sac avant d'y plonger ma main. Le contact immédiat avec le manche de bois tempéra mes appréhensions.
Il dit bonsoir. Il était en forme, Daniel, il proposait d'aller broyer du noir. C'était son expression, ça. Broyer du noir pour combattre la déprime ambiante. Soigner le mal par le mal, qui disait.
J'ai secoué la tête pour chasser la voix, avant de reporter mon attention sur ce qui m'entourait, à l'intérieur comme à l'extérieur du bus. Rien n'avait changé. Mine fermée, morne et immobile. Pas de regard autour de soi, ou si peu, pour juger surtout, et aussi pour se méfier. La couleur de ma peau irritait encore. Ça ne faisait pas un pli. Peut-être également parce que je bougeais. Je ne faisais pas partie de ces statues figées de gris, aux gestes nerveux et suspicieux. Le nord étalait sa nappe de brume à chaque coin de rue et dispersait alentour ses tentacules de prudence. Et puis, il y avait le vent qui gémissait, colportant les murmures et les ragots. Dans cet environnement hostile, l'ennemi veillait au grain.
Ça dure au moins 10 minutes, ce petit jeu. On voyait bien que Berthaud tiendrait pas le coup. Il a tellement pas tenu le coup qu'un quart d'heure après, il est mort. Il s'est effondré par terre. Il a pu bouger.
J'ai regardé par la fenêtre pour penser à autre chose. Mais ça n'a servi à rien. Au dehors, j'ai vu cette jeune femme surgir d'une ruelle sombre. Elle courait à perdre haleine, talonnée de près par 3 gars. Ils l'ont rattrapée en quelques enjambées. Elle hurlait de terreur. Il y en a un qui l'a agrippée par les cheveux, l'a jetée par terre, tandis que les 2 autres l'encerclaient déjà, ricanant et crachant des injures. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Le bus passait lentement à leur niveau. J'ai collé mon nez à la fenêtre, crispant mon poing autour du marteau enfoui dans mon sac. On les a dépassés. Personne ne se préoccupait de ce qui se passait dehors. Juste avant de tourner l'avenue Victor Hugo, j'ai encore pu les apercevoir qui la saisissaient par les bras. Ils l'ont traînée sur le trottoir. Elle hurlait toujours, se débattant comme elle pouvait. Dérisoire. Puis ils sont entrés dans un bistrot fermé dont l'un des trois gars avait les clés. Ses cris résonnaient toujours à mes oreilles. Ils se sont engouffrés dans l'établissement, ils ont claqué la porte, les hurlements se sont arrêtés net. Elle était perdue. Dans le bus, tout est redevenu normal. La silhouette massive du bâtiment hospitalier s'est enfin profilée au détour d'un virage. Presque à regret, j'ai lâché le marteau et refermé la fermeture éclair de mon sac. Quelques instants plus tard, je descendais du bus, la gorge sèche et les jambes en coton. En entrant dans l'hôpital, c'est encore le blanc qui m'a frappé. Le blanc et le silence. L'odeur aussi, celle du propre, celle de la mort. J'ai demandé le numéro de chambre de Monsieur Daniel Jandot. On m'a demandé si j'étais de la famille et, l'espace d'un instant, je n'ai su que répondre. Je suis sa fille. Un regard sceptique a aussitôt talonné ma réponse. J'ai failli éclater de rire tant c'était prévisible, mais les circonstances m'ont retenue, histoire de ne pas en rajouter. De toute façon, l'addition allait être salée. On m'a indiqué un numéro de chambre et une direction que j'ai suivi jusqu'à une porte close. Là, j'ai posé ma valise. Mon cœur battait un peu plus vite. Ça m'agaçait. Je n'avais pas envie de l'affronter dans cet état. Je m'y étais pourtant préparée. Pourquoi devenais-je nerveuse tout à coup? J'avais l'impression d'étouffer. J'ai déboutonné mon manteau, défait mon écharpe, ôté mon bonnet de laine, essuyé la paume de ma main sur le pan de ma jupe. Puis j'ai respiré un bon coup. J'ai frappé à la porte pour la forme et je suis entrée. Il était là, étendu sur le lit, forme blanche et allongée. On aurait dit un fantôme. Déjà. Cette fois, j'avais le dessus, et pourtant je me sentais devenir toute petite. Souvenir fulgurant de cette fillette écrasée sous le poids du silence. L'enfant de la haine. La couleur de ma peau a toujours fait tache dans le gris ambiant, marquant mon destin d'une différence infernale. Et puis, il est arrivé, il m'a adoptée, m'a prise par la main, m'a emmenée dans sa vie, et il m'a aimée. Je me suis avancée vers le lit à pas feutrés d'incertitude. À mon approche, il a tourné la tête et m'a reconnue. Au premier coup d'œil, j'ai vu le bonheur irradier ses traits. J'aurais voulu lui sourire, le serrer dans mes bras. Je n'ai pas pu. Pas tout de suite. J'étais figée de terreur en le découvrant là, si maigre, si fragile. Lui, mon héros d'antan.
Lynn, tu vas bien?
C'est plutôt à moi de te poser cette question.
C'est cette saloperie de cancer.
On chuchotait comme si on avait peur de réveiller quelqu'un. Il ne me quittait pas des yeux. Moi non plus d'ailleurs. Je détaillais son visage, ses traits creusés par la maladie, sa peau blanche, si blanche.
Quand es-tu arrivé?
À l'instant, je viens de la gare. Ça a eu l'air de lui faire plaisir. Allez savoir pourquoi. Je me suis assise sur le bord de son lit, lui faisant face, et j'ai osé un sourire. Alors il a fermé les yeux, se laissant aller dans la langueur d'un répit.
Prends les clés de l'appartement. Elles sont dans la poche de ma veste.
J'ai réservé une chambre à l'hôtel.
Pourquoi? T'as trop de sous?
Non, bien sûr que non. Mais comment lui dire, de but en blanc, après 5 années d'absence, que je ne voulais pas retourner là-bas. Je ne voulais plus rien qui me rattache à mon enfance, au silence et à l'incertitude. Le passé renfermait trop de questions sans réponse. Tous ces doutes qui s'amoncelaient dans un coin de l'appartement, érigeant au fil du temps l'image fantasmagorique de l'absente. Maman. Lui, il n'a jamais voulu me parler d'elle, sujet tabou autant que douloureux. Le fossé s'était creusé depuis longtemps déjà, dès l'enfance, à l'époque où je me posais beaucoup de questions. L'école, les copines, les comparaisons, vouloir être comme les autres, l'angoisse de la différence, la peur du rejet. Se couler dans le moule. Sauf que mon moule à moi, il était brisé et il en manquait une bonne partie. Alors chaque jour, je m'appliquais à en retrouver les morceaux. Je n'arrêtais pas de lui demander qui était ma mère, pourquoi elle n'était pas là, pourquoi elle m'avait abandonnée. Depuis toujours, je savais que j'étais une enfant adoptée. De cela, il n'a jamais fait de mystère. Et puis, il suffit de voir ma tronche à côté de la sienne pour comprendre qu'on n'a aucun lien de parenté. À part peut-être le bas du visage, ça peut encore faire illusion. Le jour où il a craché le morceau, c'était un dimanche. J'allais sur mes 8 ans. On sortait de la messe. C'était peu avant Noël. Il neigeait de même, un matin pareil à ce matin, avec ses nuages de coton cristallin délicatement posés sur les rebords des bâtiments. Et aussi les flaques de boue, noircies par les allées et venues de la ville. Papa a échangé 2-3 mots avec les voisins, les connaissances, les autres commerçants du quartier. Amen. Je me tenais à côté de lui, sage comme une icône. J'attendais qu'il dise au revoir et qu'on s'en aille. Sur le chemin du retour, nous marchions côte à côte. Ma menotte brune enfouie dans sa main blanche. Ça faisait un drôle de mélange. Et tandis qu'on avançait, la litanie des questions a repris.
Elle est où, ma mère? Elle va aussi à la messe? Pourquoi elle m'a abandonnée? Peut-être qu'elle nous voit? Peut-être qu'elle se cache parce qu'elle a peur de dire que c'est elle? Est-ce que tu la connaissais?
Ça faisait un moment que ce petit jeu perdurait. J'aligne les questions sans reprendre mon souffle, sans même attendre les réponses. À quoi bon? D'ailleurs, à la fin, je crois que je m'en foutais des réponses. Je savais que j'en aurais pas. Quand je commence comme ça, ses yeux deviennent tout noirs. Il baisse les yeux, il crispe la mâchoire. Il serre ma main trop fort, ça me fait mal. Mais je continue, coûte que coûte. C'est plus fort que moi. Je continue jusqu'à ce qu'il me lâche brutalement en étouffant un cri de rage. Il est tout rouge, il tremble. Il me regarde comme s'il allait me tuer.
Elle est morte, ta mère! Et de toute façon, elle ne voulait pas de toi!
Il m'a tué.
Ah, tu veux savoir pourquoi? Vas-y, pose-moi la question, t'es tellement forte en question, alors profites-en, vas-y, dis-le. Pourquoi? Pourquoi elle ne voulait pas de toi? Pourquoi elle t'a abandonné? Pourquoi elle a même pas voulu te regarder quand t'es sortie de son ventre?
Je n'ai rien dit, mais c'était trop tard.
Parce que t'étais juste un déchet dans son ventre pourri. Mais rassure-toi, va. Tu n'y es pour rien, toi. C'est pas toi qui l'as tué. C'est le mec qui l'a violé qui l'a tué. Une boucherie à retardement et une poubelle à fabriquer des gosses, si tu veux tout savoir. C'était ça, ton père! Parce que tu poses toujours des questions sur ta mère. Mais pourquoi tu veux jamais rien savoir sur ton père, hein? C'était qui, ton père? Pourquoi il a fait ça?
Au-dessus de nos têtes, quelques corbeaux croissaient, formes noires planant dans la blancheur du ciel. Papa marchait vite en regardant droit devant lui. Je courais à ses côtés, j'avais peur, je pleurais. J'avais envie qu'il se taise, qu'il arrête de crier, qu'il ralentisse le pas, qu'il retrouve ses yeux de papa, qu'il reprenne ma main dans la sienne.
« Mais c'est toi, mon père !»
Ça l'a ébranlé. Surtout que j'ai sorti cette phrase dans un cri, comme si c'était une question de vie ou de mort. Alors il s'est arrêté et il m'a serré dans ses bras en me demandant pardon. Je crois même qu'il pleurait, un tout petit peu. Après ça, je n'ai plus jamais posé de questions. Je n'ai plus osé. Il y a une chose dont j'étais à présent certaine. Ma mère, il la connaissait. Mon histoire, je me la suis donc construite dans ma tête. Au fil des ans, j'y rajoutais des détails, des anecdotes. La vie de ma mère, son viol, sa grossesse, sa douleur. mon père adoptif et ma mère biologique. Que s'était-il passé entre eux? Pourquoi il l'avait laissé faire ça? Pour lui, ce n'était pas une histoire de race, ni de gêne, ni de haine, même si l'acte qui engendra ma naissance fut baigné de cris, de coups, de rage et d'effroi. Tu parles d'un départ dans la vie. Y a pas à dire. On ne part pas tous avec les mêmes cartes. Je pense qu'il l'aimait, ma mère. Sans quoi, il ne m'aurait pas adoptée. Ce n'était pas le genre de gars à s'encombrer d'une môme juste par amour des gosses. C'était plutôt un homme secret, pas très expansif, qui menait sa barque sans trop s'occuper des autres. J'ai grandi dans la blanchisserie qu'il tenait, place Goffo. Toute la journée, il lavait le linge sale des autres, plus blanc que blanc. Avec les clientes, il entretenait des rapports courtois, mais jamais rien de franchement chaleureux. Il écoutait beaucoup et il parlait peu. À force de vivre à côté de son silence, j'ai fini par reconstituer l'histoire comme j'ai pu. Elle était jeune et douce, jolie bien sûr, avec sa vie qui s'étendait devant elle, à perte de vue. Je ne sais pas où ils se sont rencontrés, peut-être au supermarché. Il disait toujours que le meilleur endroit pour rencontrer une femme, c'est au supermarché. Histoire d'être dans la course, je suppose. Bref, ils se sont rencontrés et ils se sont aimés, follement. Avec des promesses et des projets, des envies de maison et de gosses, des toujours et à jamais. Ils n'étaient pas mariés, pas encore. Ils prenaient leur temps. Rien ne pressait. Ils étaient tellement sûrs l'un de l'autre. Peut-être même qu'ils ne vivaient pas ensemble. Ma mère dans une chambre de bonne, lui dans un studio. Ils allaient dormir chez l'un, puis chez l'autre. Et c'était bien ainsi. Impossible de savoir ce qu'elle faisait comme boulot. Moi, je dirais qu'elle était artiste, peintre, ou quelque chose dans le genre. Sculpteur, peut-être. Je dis ça, c'est sans doute pour justifier mon penchant pour l'art. Je fabrique des sculptures en métal. Je lime, je polis, je martèle, je soude, j'assemble, j'incorpore, je construis. Je me débrouille pas trop mal. J'ai déjà fait plusieurs expos qui ont remporté un certain succès. J'en ai même vendu. Peut-être pas de quoi vivre tous les jours, mais je commence à me faire un petit nom dans le milieu. Si j'ai hérité du côté artiste d'un de mes parents, ça devait forcément être d'elle. Les artistes ne violent pas. Donc, mon géniteur n'était pas un artiste. Logique. De lui, j'ai hérité la couleur de sa peau. C'est mon côté noir. Un métissage immonde qui a tatoué mes traits à tout jamais. Avec ma peau café au lait, mes grosses lèvres roses, mon nez aplati, mes cheveux frisés. C'est le visage de la haine. Parfois, lorsque je sculpte, ma silhouette se reflète dans une plaque de tôle dont je façonne la courbe. Chaque coup de marteau déforme la proéminence de mes traits. Je tape, je frappe, je cogne. Ça me soulage. Ça m'apaise. Mon père, lui, était très respectueux envers les étrangers. Je sentais bien lorsque des Africaines lui confiaient leur linge, par exemple. Imperceptiblement, il changeait d'attitude. Il se comportait différemment. Il était plus poli qu'avec les autres clientes, peut-être même un peu trop. Ça m'énervait. Je ne comprenais pas bien pourquoi il agissait de la sorte. Surtout après avoir appris que ma mère s'était fait violer par un noir. Comme je ne pouvais pas aborder le sujet de front, un jour, je lui ai demandé ce qu'il pensait du racisme. Je ne sais pas si celui qui a violé ma mère était raciste, si c'était un acte de xénophobie. Après tout, pourquoi pas? Si ces choses-là marchent dans un sens, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas dans l'autre. Ce dont je suis certaine, en tout cas, c'est que la connerie est universelle. Là, il n'y a pas de différence. Moi, je suis raciste. Je n'ai pas peur de le dire. Et sans doute suis-je stupide. C'est vrai qu'une métisse raciste, c'est un comble. Un peu comme Hitler qui, paraît-il, était juif. Attention, dans mon cas, je ne suis pas raciste, raciste. Bêtement, sans différence, justement. Les races, en gros, je m'en fiche pas mal. Ce sont les Noirs que je n'aime pas. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Mon père disait que le racisme, c'est une haine aveugle, sans fondement, sans limite. Une haine qui ne sait pas où aller, alors elle tape n'importe où, à l'aveuglette. Et comme les hommes ont toujours besoin de justifier leurs sentiments, ils prennent la raison la plus basique, la plus stupide, la différence. Pour lui, le racisme était une plaie ouverte et purulente, bien souvent contagieuse, dont le vrai danger était l'absence d'explication. Pas de réponse. C'était la seule chose sur laquelle il était intransigeant à mon égard. Je devais accepter la différence. Moi, j'étais différente. Il n'arrêtait pas de me répéter ce truc, tout le temps au fil des ans. J'ai grandi dans l'acceptation de la différence. Mais ça n'a pas vraiment marché. Si je connaissais l'ordure qui a violé ma mère, je pourrais reporter ma haine sur un seul gars. Ma haine aveugle. Mais là, je n'avais aucun moyen d'étancher ma soif de réponse. Parce qu'en chaque noir, je voyais le violeur de ma mère, son meurtrier, mon géniteur. Celui qui a putréfié mon sang, celui qui a noirci ma vie. Celui à cause de qui je n'ai pas de famille, pas d'identité. Je ne peux pas tous leur faire payer. Alors je les hais tous, aveuglément. Une infirmière est entrée dans la chambre. Elle était surprise de me voir, m'a demandé ce que je faisais là.
Madame Wilwa, je vous présente ma fille.
Oh, enchantée mademoiselle. Je repasserai plus tard.
Je sais bien que...
Vas-y, commence.
Je sais bien que tu n'aimes pas en parler, mais... Mon père... Je veux dire, le gars qui a violé ma mère... Tu n'as jamais su qui c'était?
Lynn... On est vraiment obligé d'en parler maintenant.
J'ai le droit de savoir, papa.
Ça te servirait à quoi?
À savoir... À comprendre. À vivre.
Vivre. Et après?
Après?
Si tu savais qui c'était, qu'est-ce que tu ferais?
Je ne sais pas trop. Peut-être que j'exigerais juste des excuses. Ce serait déjà pas si mal.
Laisse tomber, Lynn.
Parle-moi de Nino.
Nino? Connais pas.
Tu ne connais pas ou tu ne te souviens pas? Il n'a pas répondu. Comme toujours. Mon père, je ne sais rien de lui. On dirait que sa vie a commencé après ma naissance. Après la mort de ma mère. D'avant, je ne sais rien. Il n'avait ni frère ni sœur. Il ne m'a jamais parlé de ses parents, de ses amis, de son enfance, de ses études. Je ne sais même pas s'il en a fait, des études. En gros, je ne sais pas grand-chose. Nos tiroirs sont vides. Pas d'album photo, pas de soirée à raconter le passé, les souvenirs, pas de réponse aux questions. Il y a juste ce Nino, dont j'avais entendu le nom une ou deux fois seulement, quand mon père parlait tout bas au téléphone, en se calant dans le recoin de la cuisine pour ne pas que j'entende. La meilleure façon d'attirer mon attention. Faire semblant de rien. Juste tendre l'oreille et ne rien perdre de la conversation. En général, il restait évasif, nerveux, répondait par monosyllabes. Oui, Non, pas le temps. Le mois prochain, peut-être. Beaucoup de boulot, c'est ça. À bientôt. C'est tout ce que j'ai pu glaner comme information. En résumé, mon père aimait une femme, elle s'est fait violer, elle est tombée enceinte de son agresseur, puis elle est morte en me mettant au monde. Elle me donnait la vie, je lui donnais la mort. Donnant, donnant, comme on dit. Ça ferait les choux gras des psys à l'adolescence. En gros, elle m'a expulsée, j'ai poussé mon premier cri, ça devait être un cri de rage, puis elle est morte. C'est ainsi que je me racontais l'histoire. Pourquoi mon père m'a-t-il adoptée? Sans doute parce que, malgré tout, j'étais une partie d'elle. J'étais tout ce qui lui restait d'elle, alors il n'a pas eu le cœur de me jeter. Il m'a gardée auprès de lui pour que la vie gagne, pour que la différence sorte triomphante du combat. Le passé de mon père. C'est une caisse vide avec, tout au fond, un prénom. Nino. Un jour, il y a 5 ans, j'ai décidé d'ouvrir cette caisse. Pas pour voir ce qu'il y avait dedans, je savais très bien que je n'y trouverais rien. Je l'ai ouverte pour la remplir. Ça s'est passé une semaine après mon 20e anniversaire. Papa était malade. Une mauvaise grippe l'avait cloué au lit et je tenais la blanchisserie à sa place. L'opportunité s'est présentée tout bêtement. Une des machines était tombée en panne, j'ai dû téléphoner au réparateur. C'est comme ça que je suis tombée sur le numéro de téléphone de Nino. Il était inscrit dans la marge de son carnet de téléphone, comme écrit à la hâte. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je l'ai vite recopié sur un bout de papier, puis j'ai tout remis en place. Ni vu ni connu. J'ai mis 2 mois avant d'appeler Nino. 2 mois à hésiter, douter, tergiverser, peser le pour et le contre. Plusieurs fois, j'ai pris le combiné du téléphone en main, m'apprêtant à composer le numéro avant de raccrocher précipitamment, comme si je tenais une bombe entre les mains. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Et puis, un jour, j'ai composé le numéro et je n'ai pas raccroché. Lorsque la tonalité a retenti dans le combiné, je tremblais de partout, terrorisée par ce que j'étais en train de faire. C'est bien Nino qui a répondu à l'autre bout du fil. Il avait une voix de fumeur de gitane, sans filtre. Le genre de gars qui n'a plus qu'une note à sa corde. Vocale, j'entends. Je lui ai expliqué qui j'étais. Il découvrait que Daniel avait une fille. Ça fait toujours plaisir. Puis je lui ai dit que je voulais le rencontrer. Il n'a pas eu l'air contrarié. On s'est fixé rendez-vous pour la semaine suivante, vu qu'il vivait à 300 km de chez nous. Il m'a demandé comment allait mon père. Je lui ai dit qu'il n'était pas au courant de ma démarche. Ça a eu l'air de l'étonner. Mais j'ai répondu que je lui expliquerais tout cela de vive voix, comptant sur sa discrétion d'ici là. La semaine suivante, donc, je me rends chez Nino, pas vraiment sûre de mon coup. Je me demandais un peu sur qui j'allais tomber, pourquoi papa ne m'en avait jamais parlé, mais bon. Nino m'avait plus ou moins expliqué le chemin par téléphone, ce qui n'a pas servi à grand-chose puisque je me suis perdue au milieu d'un dédale de HLM. J'ai pas mal tourné en rond. J'espérais que ce n'était pas prémonitoire. Puis j'ai trouvé l'allée et enfin l'immeuble. L'endroit était glauque, gris sur gris, béton tagué et poubelles renversées. À l'entrée du HLM, un groupe de sentinelles au teint basané montait la garde. Ça ne m'a pas vraiment rassurée, mais vu que je venais de me taper 300 km, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis entrée dans l'immeuble, sous les sarcasmes désobligeants de ses locataires. Je tenais mon sac à main bien serré contre moi. Non pas dans la peur qu'on me le vole, mais de palper la forme compacte de mon marteau modérait mon angoisse. L'ascenseur délabré m'a déposé au 6e étage. J'ai longé un long couloir impersonnel, rangé de portes qui laissaient filtrer les misères domestiques de leurs occupants. Tout au fond du couloir, c'était l'appartement de Nino. De l'autre côté de la cloison, un chien s'est mis à aboyer avant même que j'appuie sur la sonnette. Sympa l'accueil. Et ce n'était que l'entrée en matière, parce que le plat de résistance n'a pas été plus appétissant. Indigeste même. Quand la porte s'est ouverte, j'ai découvert deux bulldogs dont l'un se distinguait de l'autre en se tenant sur deux pattes, qu'il avait courtes d'ailleurs. C'était la seule différence. Tout le reste était à l'avenant. Babine tombante, croc apparent, panse ventrue, regard vide. J'ai pensé qu'il en était de même pour la queue, et ça m'a fait sourire. Intérieurement, bien sûr, parce qu'en réalité, je n'en ai pas large. Nino devait avoir l'âge de mon père, 50-55 ans environ, mais son apparence physique avait depuis bien longtemps renié cette donnée. Jeans crasseux tombant en accordéon sur des Santiago usés jusqu'à la corde, bracelets de cuir et t-shirt douteux, il tentait misérablement de conserver l'esprit rocker de sa jeunesse évanouie. Son visage, gâté par la bière, portait le favori broussailleux et la chevelure mi-longue à la Johnny des années 80. En me découvrant sur le palier, les deux molosses se sont mis à grogner.
« Si toi t'es la fille de Daniel, moi je suis la fée clochette. »
C'est pratique pour voler, non? Il n'a pas saisi le trait d'esprit, et dans le fond, tant mieux. Car l'humour ne semblait pas faire partie de son caractère. Pourquoi ne serais-je pas la fille de Daniel?
Les négros, c'était pas son truc!
Ébloui, je découvrais que ce type avait un tempérament à l'image de son physique. Fin, subtil et perspicace. Ah bon?
Faut pas me raconter de conneries à moi. Daniel et moi, on n'a jamais pu piffer les bougnoules. Alors fous le camp d'ici avant que je lâche Brutus.
Je ne suis pas vraiment la fille de Daniel. Il m'a adoptée.
T'as pas compris ce que j'ai dit. Daniel, il savait pas blairer les nègres. D'accord, ça fait longtemps qu'on s'est plus vus, lui et moi, mais il ne m'a jamais parlé de toi. On doit pas causer du même Daniel.
Pour le coup, je commençais à croire qu'il avait raison. La main enfouie dans mon sac, j'ai lâché le marteau pour saisir mon portefeuille, dont j'ai extirpé une photo sur laquelle mon père m'enlaçait tendrement les épaules. Lorsque je la lui ai montrée, Nino a failli lâcher son chien, pas tant pour mettre ses menaces à exécution, mais plutôt par surprise. Je ne vais pas vous déranger longtemps, monsieur. Tout ce que j'aimerais savoir, c'est si vous connaissiez une femme dont mon père était amoureux, il y a plus de 20 ans. Une femme qui se serait fait violer par un nègre. Là, j'ai cru qu'il était soudainement frappé de catatonie. Nino fixait toujours la photo de son regard lumineux, la bouche ouverte, et j'ai cru un moment qu'un filet de bave allait s'échapper de la commissure de ses lèvres. Gentil, le chien-chien. Puis il m'a dévisagé, et là, sincèrement, j'ai aperçu une lueur de vie tout au fond de ses prunelles apathiques. Il a mis un moment avant de réagir. J'ai presque eu la sensation d'entendre les rouages endommagés de son cerveau se remettre en marche après de longues années d'inertie.
T'es la môme de cette salope?
Je l'ignore. J'irai même jusqu'à vous avouer que c'est un peu le but de ma visite.
T'as quel âge?
20 ans.
Ouais, c'est ça, ça colle. T'es la môme à Daniel, en fait.
C'est ce que je me tue à vous dire.
Et alors quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir?
J'aimerais savoir qui était ma mère.
Et il te l'a pas dit, ton papa?
Ben non, sinon je serais pas là.
Couché, Brutus! C'est pas mon genre de faire entrer des étrangers chez moi. On sait jamais sur qui on tombe. Mais vu que t'es la fille à Daniel, après tout, je vais faire une exception.
Il m'a tourné le dos avant de disparaître à l'intérieur de la maison. Comme il avait laissé la porte ouverte, j'ai pris ça comme une invitation. Restait à enjamber le chien, ce que j'ai fait d'un pas peu assuré, non sans essuyer au passage un grognement de bienvenue. Le mobilier du logis était des plus rudimentaires. Au centre de la pièce principale, il y avait juste une table ronde en contreplaqué, jonchée de vaisselle sale, Canettes de bière, restes de sandwich, paquets de clopes, un cendrier plein, deux ou trois journaux tachés de gras et même quelques boîtes de nourriture pour chiens ouvertes et vides. Adossé au mur punaisé de posters de Johnny et d'Elvis, il y avait un vieux canapé rapiécé sur lequel j'ai pris place d'une fesse prudente. Nino s'est installé à la table, sur la seule chaise qui la servait. Vous connaissiez ma mère, alors?
T'emballe pas, cocotte! Ta mère, je la connaissais pas. Mais je connais l'histoire, ça oui.
Vous pourriez me la raconter? Ensuite, je m'en irai et vous n'entendrez plus jamais parler de moi.
Je peux te raconter l'histoire si tu veux, mais je sais pas si ça va te plaire. Après tout, j'en ai rien à foutre. Surtout que maintenant, il y a prescription. Et puis moi, j'ai rien à me reprocher. À l'époque, on se voyait souvent avec Daniel. C'était un joyeux fêtard, on ne s'ennuyait jamais avec lui. On se retrouvait toujours chez Berthaud qui tenait un bar en face de la gare. Qu'est-ce qu'on a pu en passer des nuits à se bourrer la gueule et à rigoler. Et les grands soirs, quand il était en forme, Daniel, il proposait d'aller broyer du noir. C'était son expression, ça. Broyer du noir pour combattre la déprime ambiante. Soigner le mal par le mal, qui disait. Daniel, quand même, il en avait de drôles dans sa tête. Je sais pas où il allait les chercher. On attendait que Berthaud ferme le bistrot et on sortait en commando de purification. Il n'y avait pas loin à aller. Dans le quartier de la gare, ça grouillait de bougnoul. Bon, je parle de bougnoul, mais on n'était pas bégueule. Si on croisait un bridé ou un polac, on était partant aussi. Tu vois, on faisait pas de discrimination. On en repérait un, on lui collait au basque. Et quand il crevait bien de trouille, on lui passait l'envie de revenir moisir dans le quartier. Ah, c'était efficace comme méthode pour ça. Daniel, il savait comment s'y prendre. Un soir, on est tombé sur une petite négresse. Elle devait pas avoir plus de 20 ans. C'est Berthaud qui l'a repérée. Elle tendinait du croupion comme une pute. On voyait tout de suite qu'elle aimait ça. On s'est approché d'elle, mais cette poufiasse s'est mise à courir dans la rue en poussant des cris de gorée. Ça faisait un boucan, il n'y avait pas moyen de la faire taire. On a dû s'y mettre à trois pour la choper. Elle nous a fait cavaler, la salope. Et même quand on l'a rattrapée, elle se laissait toujours pas faire. On a été obligé de la ramener au bistrot. Là, elle pouvait gueuler tant qu'elle voulait, on était peinards. Daniel se l'est fait ton premier. Honneur au chef. Berthaud et moi, on la maintenait par les bras. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Elle devait être vierge vu qu'elle a saigné. Même qu'au début, Daniel a cru qu'il s'était blessé. Après Daniel, c'est Berthaud qui a voulu s'y coller. Mais après tout, c'est lui qui l'avait repéré, c'était normal. Et puis on n'allait pas s'engueuler pour une bougnoule non plus. N'empêche, sur ce coup-là, j'ai bien fait d'être fair-play, comme on dit dans le beau monde. La salope, elle avait cessé de se débattre. On a cru qu'elle allait être sage. Alors pendant que Berthaud lui faisait son affaire, Daniel et moi, on s'est pris une bière au bar. On n'aurait pas dû. Il avait à peine commencé à se tremper le biscuit qu'on a entendu un bruit de verre suivi d'un cri de gorée. Berthaud! On s'est retourné et là, on a vu cette pute qui brandissait un verre cassé en s'acharnant sur lui. Je sais pas comment elle a fait. Elle a dû prendre un verre qui traînait sur la table où on lui faisait son affaire et le casser avant d'égorger Berthaud. Qu'est-ce qu'on a été cons sur ce coup-là? C'était dégueulasse! Il y avait du sang partout, ça giclait dans tous les sens. Elle l'avait taillé à la gorge. Le pauvre Berthaud se tenait le cou, mais le sang coulait à flot. Pas moyen de l'arrêter. Il gargouillait de douleur, il pensait même plus à se défendre. Là, je dois dire, Daniel et moi, on a un peu paniqué. Surtout que la fille se déchaînait comme une furie. Dès qu'on faisait mine de l'approcher, elle faisait aller son verre cassé dans tous les sens. Il n'y avait pas moyen de faire un pas vers elle sans se faire tailler le portrait. Mais dès qu'on reculait, elle se jetait sur Berthaud et continuait à faire des trous dedans. Ça a duré au moins 10 minutes, ce petit jeu. On voyait bien que Berthaud tiendrait pas le coup. Et il a tellement pas tenu le coup qu'un quart d'heure après, il est mort.
Il s'est effondré par terre. Il a plus bougé. C'était la fin de Berthaud. Eh ben, tu crois que ça l'a calmé, la connasse? Pas du tout. Elle continuait de pousser des cris de rage. Elle était pleine du sang de Berthaud. Elle nous regardait avec des yeux fous. On aurait dit Régine dans l'exorciste. L'affaire tournait mal. On se l'est pas fait dire deux fois, Daniel et moi. On s'est regardé, on s'est tiré, vite fait. Du genre, on n'a rien à voir avec ça. Sauf que Daniel, lui, il avait laissé tout son portefeuille génétique dans le trou de la grognasse. Du coup, il s'est erré chez lui sans plus oser sortir. Il a eu la trouille de sa vie. Ce qui était con, parce que la petite négresse, elle a pas fait deux pas dans la rue sans se faire choper. Faut dire qu'elle avait laissé des empreintes partout. Ça a pas fait un pli. Il paraît qu'on l'a retrouvée à peine 20 minutes plus tard. Elle marchait dans la rue sans savoir où elle allait. Elle était pleine de sang et elle tenait toujours le verre cassé à la main. Sa culpabilité a pas été très difficile à prouver. En plus, elle parlait pas très bien français. Et ils lui ont collé un avocat commis d'office. Un bamboula, comme elle, qui devait soi-disant parler son jargon. Sauf qu'apparemment, ils étaient pas du même coin en Afrique. Et même lui, il avait du mal à la comprendre. Bande de dégénérés. Ces bougnoules, ils savent même pas s'entendre entre eux. Alors nous, tu penses? Elle avait aucune chance de s'en sortir. L'affaire a été vite réglée. Elle a parlé d'un viol. Ils ont retrouvé un cadavre. Ils ont fait 1 plus 1 égale 2. Et ils ont classé le dossier. Note bien que nous, ça faisait plutôt notre affaire. Comme quoi, il y a tout de même une justice. Mais Daniel, après ce coup-là, il a plus jamais été le même. Je sais qu'il s'est intéressé au procès. L'avocat de la négresse a essayé de plaider la légitime défense. Surtout qu'elle disait qu'elle était enceinte suite au viol. Mais ça, ils ont jamais pu le prouver. Que c'était le viol qui l'avait mise dans cet état, je veux dire. Nous, on le savait puisqu'il y avait eu personne avant nous. Je pense qu'ils ont pas vraiment cherché non plus. Après tout, c'était qu'une bougnoule. Elle a été condamnée à perpète, ça lui faisait les pieds à cette salope. Ils ont fait appel, mais le temps que l'appel passe, elle avait accouché en tôle et elle était morte en couche. Berthaud était vengé. On a mis son gosse à l'orphelinat. Après ça, Daniel, il s'est cassé. En tout cas, je l'ai plus revu. J'avais entendu dire qu'il allait mal depuis cette histoire. Le con. Je savais pas qu'il t'avait retrouvé. Parce qu'en fait, la bamboula, elle était enceinte de lui si on veut bien réfléchir. Puisqu'il n'y a que lui qui a eu le temps de se dégorger le poireau cette nuit-là.
Allongé sur son lit d'hôpital, il n'était plus qu'une forme blanche, un fantôme du passé luttant désespérément contre le cancer qui le bouffait de l'intérieur. Ou bien était-ce le secret enfoui au plus profond de son cœur qui le rongeait inexorablement, centimètre par centimètre? Son cancer. Il avait éclos cette nuit-là, la nuit où il avait violé ma mère, la nuit où j'ai été conçue. Et il a grandi en même temps que moi. C'était moi, son cancer.
C'est à cause de Nino que tu es parti.
Je tenais toujours le marteau caché dans mon sac, mon poing crispé autour du manche.
Hein? C'est à cause de lui que tu es parti.
J'ai hoché la tête, rien de plus. La réponse, il la connaissait déjà. Il a fermé les yeux. Sa respiration se faisait difficile. Il avait de plus en plus de mal à parler. De toute façon, il n'y avait plus rien à dire.
Pourquoi es-tu revenu?
On s'est regardé un long moment. Il me bouffait des yeux, tentant désespérément de retrouver sur mon visage un reste d'amour. Lui, celui qui m'avait conçu de sa haine. J'aurais voulu me taire, lui mentir, lui laisser croire ce qu'il avait envie de croire. Mais c'en était fini du silence. À tout jamais. J'ai lâché le marteau. Je suis revenue pour te voir mourir. En quelques heures, il est devenu blanc comme un cachet d'aspirine. Ou plutôt comme du Saint-Doux. C'est plus approprié. Cireux. J'ai pris sa main dans la mienne, sa main blanche posée sur ma paume brune, café au lait. Ça faisait un drôle de mélange. La mort venait de creuser un gouffre entre nos deux vies, entre nos deux peaux. Elle ricanait derrière moi comme si elle venait enfin de me faire admettre que cet homme raidi sur ce lit d'hôpital n'était rien de plus que mon père.
Pardon.
Il l'a retenu jusqu'au bout, ce mot. Il a calculé le temps infime qui lui restait à expirer, le dernier souffle dont il aurait besoin pour dire ça. Ses yeux m'ont happé dans la folie d'un ultime remords. Ça m'a foudroyé d'un coup. Par son regard, par la terreur que j'y lisais, il a dit ça. Juste ça. Simplement ça. Pardon. Puis il est mort. C'était avant tout une histoire de race, même si, à ses yeux, j'étais aussi blanche que lui, une colombe, un ange. Il m'appelait sa fille, il était mon père. Il m'a élevée dans l'acceptation de la différence, disant que le racisme, c'est une haine aveugle, sans fondement, sans limite. Une haine qui ne sait pas où aller, alors elle tape n'importe où, à l'aveuglette. Et comme les hommes ont toujours besoin de justifier leurs sentiments, ils prennent la raison la plus basique, la plus stupide, la différence. C'était ça le vrai danger de cette plaie, ce cancer de la nature humaine. Parce qu'il n'y avait pas d'explication, donc pas de solution, pas de réponse. Ma mère, c'était juste une petite nana qui débarquait de son Afrique baignée de soleil. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Personne ne l'a jamais su. Pas de réponse. Pas de réponse non plus pour savoir d'où elle venait, qui elle était, quels étaient ses rêves, quel cauchemar elle avait quitté. Tout ce que je sais, c'est que la couleur de sa peau ne lui a laissé aucune chance. Raciste? Oui, je le suis toujours. Raciste envers la connerie des hommes qui, elle, n'a pas de couleur. Mais surtout, maintenant, je sais que le racisme, c'est juste une question d'ignorance.